que c'était des jeunes qui avaient mis le feu.
Qu'avez-vous fait ?
Je me suis dit que, réel ou pas, il fallait que je la calme. Alors, mentalement, je lui ai promis que nous ferions tout pour arrêter ceux qui avaient fait ça.
Puis j'ai essayé d'être apaisant en tentant de lui faire comprendre où elle se trouvait, lui suggérant d'être attentive au fait que peut-être une lumière était perceptible quelque part pour elle, et le cas échéant, de se diriger en confiance vers cette lumière lorsqu'elle l'apercevrait.
C'est ce que j'avais entendu dire qu'il fallait faire. La dame disparut,
comme elle est venue.
Plus que troublé par cette apparition et les propos qu'elle lui a tenus, Patrick rejoint son chef de groupe dans la salle à manger et lui raconte ce qui vient de se passer en lui décrivant la victime.
Le flic l'écoute sans faire de remarques.
Patrick l'a déjà magnétisé et l'autre a constaté que son officier est capable de capter des trucs bizarres, mais réels. Il lui fait confiance,
même s'il ne sait pas trop où ranger ce genre de phénomène.
La perquisition se poursuit, et bientôt le chef de groupe met la main sur la carte d'identité de la victime. Il est venu vers moi en me montrant la photographie sur la carte d'identité.
« Tu as vu ? Elle est comme tu l'as décrite ?» m'a-t-il dit tout excité. « Vous l'avez reconnue ?»
C'est vrai que j'ai eu un choc en voyant cette photo. C'était vraiment elle que j'avais vue. Ça me rassurait dans le sens où j'avais la confirmation que je n'avais pas déliré. Mais en même temps, ça m'a mis vraiment mal à l'aise.
Pourquoi ?
Je lui avais fait une promesse à cette dame. De retour au Quai des Orfèvres, les deux flics décident de garder cette histoire d'apparition pour eux.
Le dossier est confié à Patrick.
L'enquête révèle que l'image de Tati Daniel colle vraiment à la défunte. De son vivant, elle s'était fâchée avec son unique enfant.
Elle avait frappé une voisine de palier et on la connaissait pour jeter des bouteilles d'eau depuis la fenêtre de son appartement sur les jeunes qui faisaient du bruit dans la cité.
Après enquête, les policiers arrêtent 5 jeunes gens suspectés d'être impliqués dans l'incendie. Pendant leur interrogatoire, ils ont avoué. Pour eux, ils avaient juste mis le feu au paillasson de la vieille.
Est-ce son intervention qui vous a mis sur leur piste ?
C'est clair. C'est uniquement le message qu'elle m'a donné dans sa chambre sur ces jeunes qui m'a permis d'orienter l'enquête sur eux. Sinon, nous n'aurions jamais trouvé. Cette enquête a été résolue sans aucune preuve matérielle, tout au feeling, comme on dit.
Un sacré feeling.
Chapitre 30. Un signe. Le fils de Sylvie et Laurent est mort dans un dramatique accident de voiture en mars 2013. Tom avait 11 ans. Un peu plus d'un an après ce cataclysme, en juillet 2014, Sylvie passe quelques jours de vacances chez des amis en Picardie.
La nuit est tombée. Sylvie a regagné sa chambre.
Elle descend les volets électriques et se retrouve dans l'obscurité totale alors qu'elle se glisse dans son lit.
Nous sommes le 17 juillet et Tom est décédé le 17 mars. Ces dates symboliques sont dures à vivre.
C'est psychologique. Une période que l'on vit assez mal.
Qu'avez-vous fait ce jour-là ?
Je n'ai pas été bien de la journée. J'ai effectué seul une grande balade sur la plage et je pleurais beaucoup. J'étais vraiment mal. Allongé dans l'obscurité, je me suis adressé à mon fils. « S'il te plaît, envoie-moi un signe, parce que ça ne va pas du tout. » Je n'arrivais pas à dormir. Et à ce moment-là, j'ai vu cette espèce de point rouge qui dansait devant mes yeux.
« Un point rouge ? Dans le noir ?
Oui. Rien ne filtrait de l'extérieur à cause des volets. Je me trouvais dans le noir complet. Mon premier réflexe a été d'allumer.
Ce point rouge ressemblait à quoi ?
Un peu comme ce qu'émet un pointeur laser. Mais le volet était complètement occulté, et en plus, la maison où nous étions se trouvait dans un endroit isolé, sans aucune habitation alentour. Et pas d'appareil électrique dans la chambre qui aurait pu projeter une lumière. J'allume et je ne vois plus rien. Alors j'éteins et je distingue à nouveau le point rouge.
Est-ce qu'il bougeait ?
Oui, ça bougeait. C'était rouge, mais comme avec du jaune au centre. Ça n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens, de danser en l'air.
Combien de temps cela a-t-il duré ?
Plusieurs minutes, et je me suis endormi.
Pourquoi associez-vous cette lumière à votre fils, Tom ?
Parce qu'il me l'a dit.
Quelques jours plus tard, une amie est entrée en contact avec Tom au moyen de l'écriture automatique. L'écriture automatique est une forme de médiumnité consistant à prêter sa main à un défunt pour qu'il écrive les messages qu'il désire transmettre. Cela demande une certaine pratique. La personne tient un stylo dont elle laisse la pointe posée sur une feuille de papier et se relâche suffisamment pour permettre au défunt d'animer sa main et d'écrire.
Le secret réside dans la capacité au lâcher-prise de la personne qui tient le stylo.
En effet, elle doit se réfréner afin que son mental n'interfère pas tandis que le défunt se sert de sa main pour former des phrases aux déliés incroyables. Les messages sont parfois impressionnants, car il arrive que le texte soit ponctué de détails totalement ignorés de la personne qui tient le stylo. Ce qui rend la question « qui les écrit ?» bien troublante. Ce fut le cas pour la maman de Tom, qui avait gardé pour elle ce qui venait de lui arriver en Picardie.
Je n'avais pas raconté l'épisode de la lumière à cet ami, et par son intermédiaire, Tom m'a écrit cette très jolie phrase. La petite lumière, c'était bien moi. Tu étais si triste, ma maman d'amour. Alors, je suis venu danser devant toi pour te faire sourire.
Chapitre 31. Confirmation.
Je savais que ce serait une histoire sérieuse, mais j'avais l'intuition que ça ne durerait pas plus de 3 ans.
Ce pressentiment, encore une fois.
Lorsque Valérie rencontre Loïc, elle a 21 ans et lui 20.
Le coup de foudre est immédiat, mais leur histoire qui commence est entachée par cette appréhension à l'époque inexplicable. Valérie est surprise par cette sensation dès les premiers jours. Au fond d'elle, l'image d'un accident est là, et elle tente de se raisonner en essayant de se convaincre que non. Peut-être vont-ils simplement rompre au bout de quelque temps, même si leur histoire n'est pas une passade, et qu'ils éprouvent l'un pour l'autre des sentiments très forts. Plus curieux encore, Loïc, lui aussi, pense qu'il ne vivra pas vieux et l'exprime régulièrement.
« J'ai l'impression que je vais partir jeune », annonce-t-il à Valérie.
Le 27 février 1996, voilà presque 3 ans qu'ils sont ensemble. Le couple habite Toulouse. Loïc, qui est informaticien, est en déplacement à Paris. Après avoir effectué un dépannage chez un premier client le matin, il a déjà pris du retard sur son planning et doit vite se rendre chez le client suivant, à l'autre bout de la capitale, sans même avoir pris le temps de déjeuner.
Sur une bretelle à double voie, sa voiture de location heurte de plein fouet un véhicule arrivant en face. Loïc est tué sur le coup.
Lorsqu'en fin de journée, Valérie rentre de son travail, elle a un message sur son répondeur. Une femme en pleurs. « Valérie, rappelle-moi tout de suite. »
La voix est tellement déformée par la douleur que Valérie ne reconnaît pas la maman de Loïc.
Elle appelle sa grand-mère. « C'est toi qui m'as laissé un message ?»
pensant qu'il est arrivé quelque chose à son grand-père.
« Non. »
Elle raccroche et tout de suite le téléphone sonne à nouveau.
Le frère de Loïc est au bout du fil.
Il lui annonce la nouvelle.
Valérie est terrassée.
Sous le choc, elle ne sait plus quoi faire, qui appeler. Elle est perdue et reste prostrée.
La nuit tombe.
Comment fermer l'œil ?
Avec Loïc, ils habitaient un appartement situé au dernier étage. Toute la nuit, Valérie croit entendre ses bottes de motard dans l'escalier.
Des pas sur le carrelage de l'entrée du rez-de-chaussée. exactement le même son familier qui indiquait le retour de Loïc. J'avais vraiment l'impression d'entendre ses pas, comme si quelqu'un marchait de long en large en bas de l'immeuble.
Incapable de dormir et en état de choc, Valérie n'y prête pas plus d'attention.
Ce n'est que plus tard qu'elle réalisera combien il était improbable que quelqu'un ait déambulé dans l'escalier de son immeuble une partie de la nuit.
Et cela se reproduit plusieurs fois les nuits qui suivent. Et puis, cette odeur de cigarette. Valérie ne fume pas. L'appartement est fermé, les fenêtres closes, et pourtant, à certains moments, l'odeur de cigarette est indiscutable. Pas celle de mégot froid, pas celle qui imprègne un appartement de fumeurs, non. Celle d'une cigarette allumée en train de se consumer.
C'était fort, comme s'il était en train de fumer à côté de moi.
L'odeur de l'eau de toilette de Loïc aussi la surprend. Dans l'appartement et même à l'extérieur, alors que personne ne se trouve à proximité.
La cigarette ou le parfum, c'était différent de ces odeurs familières d'appartement. Malgré tout, à chaque fois, j'essayais de trouver une explication logique. C'est son appart. C'est peut-être mon cerveau qui essaie de recréer des choses pour me faire du bien.
Mais ce n'était que le début.
Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu plein de petites choses. Je sentais une présence. Il y avait quelqu'un dans l'appart.
Décrivez-moi vos sensations.
On avait un petit bar dans le salon et Loïc avait souvent l'habitude de s'y asseoir. Plusieurs fois, je me suis senti observé comme s'il y avait quelqu'un au bar qui me regardait. Ou alors, il est arrivé que je sente une pression sur ma peau, comme si quelqu'un me prenait la main, ce que Loïc faisait de son vivant. On avait l'habitude de regarder la télé main dans la main, et il me serrait la main comme ça, deux, trois fois d'affilée. Un petit jeu entre nous.
Il m'est arrivé plusieurs fois, seul devant la télé, de sentir clairement quelque chose me toucher la main comme il le faisait. Odeur manifeste, sensation physique sur la main et surtout ce sentiment de présence. Valérie ne sait comment interpréter ce qu'elle vit. Elle a reçu une éducation très cartésienne, ni religion, ni spiritualité. Même si petite, elle se posait beaucoup de questions existentielles. Ce n'est pas aller plus loin. En rencontrant Loïc, elle a fait la connaissance de sa tante, qui est un peu médium. Elle pratique l'écriture automatique, et lors des repas de famille, Valérie les a parfois entendus parler de vie après la mort, de spiritisme. Mais pour elle, à l'époque, ce genre de choses lui semble relever du domaine des croyances pas très sérieuses. Et quand il arrivait à la tante de Loïc de lui parler de ses expériences, de raconter que, parfois, les morts peuvent essayer de nous contacter, Valérie coupait court à la discussion. Le sujet lui faisait un peu peur. Valérie est ingénieure dans le domaine aéronautique, plutôt les pieds sur terre. Alors, ces histoires de fantômes. Malgré tout, ces trucs bizarres qui se produisent depuis la mort de Loïc commencent à sérieusement l'intriguer. Et si c'était vraiment des signes de sa part?
Dans le doute, elle choisit pourtant de se raccrocher au concret.
« C'est moi qui interprète, j'ai envie d'y croire. Il y a forcément une explication. »
Même quand les clés disparaissent pour réapparaître dans le vide-poche,
où elle vient pourtant de regarder 10 fois,
même quand cette sensation de présence se fait si prégnante. 3 ou 4 fois dans la semaine, il se passait quelque chose. Alors je me suis dit au bout d'un moment, soit je deviens folle, soit c'est Loïc. Mais je ne voulais rien comprendre, je ne voulais pas y croire. Et puis, à force d'accumulation, statistiquement, ce n'était pas possible qu'il arrive autant de trucs. J'ai commencé à avoir un doute, et je me suis laissé doucement séduire par l'idée, parce que quelque part, ça m'apaisait aussi de penser que c'était peut-être bien réel. Loïc devait chercher à m'interpeller en faisant des choses de plus en plus évidentes, puisque, pour les manifestations plus anodines, je trouvais toujours une explication rationnelle.
qu'entendez-vous ? Par des choses de plus en plus évidentes. Son doigt dans mon dos, par exemple. Vous savez, quand vous voulez surprendre quelqu'un, vous pointez le doigt dans ses côtes ou son dos. C'est ce qui m'est arrivé. Brusquement, je sentais quelqu'un m'enfoncer le doigt dans le flanc, et je sursautais de stupeur.
Cela se produisait à quel moment de la journée ?
Toujours quand j'étais occupé. Une fois, je me trouvais chez des amis qui m'avaient invité pour me changer les idées. J'étais en train de faire la vaisselle, je plaisantais avec eux alors qu'ils se trouvaient dans l'autre pièce. Je ne pensais absolument pas à Loïc à ce moment-là, et tout d'un coup, paf, un doigt dans le dos. J'ai fait un bond,
j'imagine.
En même temps que je sursautais, j'ai crié de surprise au point que mes amis m'ont demandé ce qui se passait.
Ça arrivait toujours à des moments où je ne m'y attendais pas.
C'est là que j'ai commencé à me dire que ce n'était pas moi qui provoquais ça, puisque je n'étais pas en train de penser à lui.
Environ 3 mois après la mort de Loïc, Valérie sent toujours autant sa présence. Un soir, elle se couche en proie à un gros accès de tristesse. Elle remarque, une fois allongée, que l'ambiance, l'atmosphère, est un peu particulière.
Elle ne sait pas définir précisément ce qu'elle ressent. Impression feutrée de se trouver dans une bulle, chaque son étant comme amplifié.
Alors, elle perçoit que quelqu'un marche sur la moquette. Immédiatement, la peur l'envahit. Coup de chaud, son cœur s'emballe.
Et soudain, le lit s'affaisse, comme lorsqu'une personne s'y assoit.
Mon cœur battait à tout rompre. J'ai cru que j'allais avoir un malaise tellement j'étais effrayé. Et puis, j'ai senti qu'on me touchait les jambes par-dessus les couvertures, l'air de dire « Je suis là ».
Alors je me suis écrié à haute voix « Écoute, Loïc, je sais que c'est toi. Merci de ces signes, vraiment, je te crois, mais arrête. »
J'avais le cœur qui allait sortir de la poitrine tellement il battait fort. J'étais terrorisé.
Que s'est-il passé alors ?
Ça s'est arrêté.
Comment êtes-vous sûr que vous ne rêviez pas ?
Je venais de me coucher, je n'étais pas encore endormi. J'avais même les yeux grands ouverts. Enfin, quand il s'est assis sur le lit, je les ai fermés parce que je me suis dit que si jamais je le voyais, j'allais mourir d'une crise cardiaque.
Cette visite balait les derniers doutes de Valérie. L'expérience a été trop intense, trop d'émotions.
Les jours qui suivent, elle parle à Loïc dès qu'elle sent à nouveau une présence. 6 mois après le départ de leur fils, les parents de Loïc envisagent de mettre sa moto en vente.
Valérie a obtenu son permis 1 mois avant l'accident et se demande si elle ne va pas leur proposer de la racheter. Pour garder un souvenir de Loïc.
Mais c'est une grosse cylindrée, une machine puissante. Et Valérie, qui est débutante, hésite. Un soir, en se couchant, elle s'adresse à Loïc. « Je pense que je vais proposer à tes parents de leur racheter la moto. »
Le lendemain matin, sa belle-mère l'appelle.
Elle me dit que sa sœur, la tante qui fait de l'écriture automatique, lui a téléphoné à l'aube pour lui raconter avoir été réveillé en pleine nuit par Loïc, qui lui a fait écrire une lettre. Dans ce message, il l'avertissait qu'il ne fallait surtout pas que je rachète la moto, parce qu'elle était trop puissante pour moi.
Et vous êtes certaine que vous n'aviez pas fait part de vos intentions, ni à la mère, ni à la tante ?
Non. Je n'en avais encore parlé à personne, juste à Loïc, la veille au soir.
Et Loïc réveille sa tante dans la nuit ?
Oui. Quand elle m'a dit ça, j'ai été séché sur place.
J'ai des frissons, rien que d'en reparler. Et c'est vrai que même si après ce que j'avais déjà vécu, je n'avais plus trop de doutes à l'époque, là, ça a été le marteau qui a enfoncé le dernier clou. J'ai pensé, là, c'est bon, j'ai ma preuve.
Les incroyables expériences qui suivent le départ de Loïc, jusqu'à ce message 6 mois après son départ, conduisent Valérie à s'engager sur un cheminement spirituel. C'est un véritable saut de conscience qui s'opère en elle.
Elle s'ouvre à une réalité qui, jusqu'à présent, était absente de son existence.
Avec le recul, je pense que c'était une expérience par laquelle il fallait que je passe. Elle a provoqué en moi une ouverture d'esprit que je n'aurais jamais connue si tout cela n'était pas arrivé.
Les expériences, intensives les 6 premiers mois, vont sensiblement diminuer après l'épisode de la moto. Comme si le message était passé. Au bout d'un an, les signes sont devenus très épisodiques. Valérie a refait sa vie. Elle se dit que Loïc aussi est passé à autre chose.
Chapitre 32. La petite Estelle. Jeanne, 62 ans, est en train de s'éteindre, atteinte d'un cancer du poumon. Elle vit ses derniers jours à domicile, veillée jour et nuit par son mari et son fils Pierre. Il est présent le jour où elle expire. Ils ont parlé de la mort ensemble. La famille est très ouverte et la promesse a été formulée que le premier qui partirait devrait faire signe à ceux qui resteraient. Communiquer, quel que soit le moyen. La femme de Pierre, Sophie, était extrêmement attachée à sa belle-mère. Son départ est douloureux. Avec Pierre, ils ont 2 enfants. Estelle, 10 ans, et Simon, 6. Dès le lendemain de la mort de Jeanne, au moment où Sophie met sa fille au lit, Estelle explique à sa maman sentir la présence de sa grand-mère autour de son lit. Quelque chose l'enveloppe avec légèreté. Elle peine à décrire cette impression, évoque la sensation d'une couette qui la recouvrirait. Estelle ajoute entendre « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Pierre et Sophie, catholiques non pratiquants, accueillent avec bienveillance ce que leur dit leur fille. Pour eux, être à l'écoute est important. Cette confiance incite Estelle à se livrer sans entrave à sa maman, et, quelques jours plus tard, elle lui dit apercevoir le visage de sa grand-mère. Le soir, dans sa chambre, Estelle raconte la voir dans une sorte de médaillon. Seul le haut du corps est visible. Les semaines qui suivent, les visites de Jeanne se succèdent. Estelle transmet de petits messages qu'elle dit recevoir à l'intention de Sophie, qui essaie de ne pas montrer sa peine aux enfants. Une fois, Estelle me dit « Mamie me demande de te dire « Sois courageuse, ma grande, ne pleure pas ». Sophie est encore émue à l'évocation de ce message. « C'est vrai que ma belle-mère m'appelait parfois « ma grande », ce qu'Estelle ne savait pas forcément. C'est assez troublant. Même si on est ouvert. » 2 mois après le décès de sa mère, Pierre va chercher les enfants à l'école et revient à la maison en leur compagnie. C'est l'heure du goûter, tous les 3 sont dans la cuisine. Pierre se tient debout contre le frigo, quand soudain il voit Estelle venir vers lui, apparemment gênée. La petite se tient les mains, tire maladroitement sur son pull comme un enfant qui essaye de dire quelque chose, sans oser se lancer. Et puis, elle me chuchote « Papa, il y a mamie qui est là, regarde !» en désignant l'angle de la pièce, mais sans se retourner. Estelle semble avoir peur de diriger son regard dans la direction qu'elle indique. Elle lançait furtivement un œil derrière elle, puis revenait vers moi. Je lui ai dit que je ne voyais rien, et là, elle me rétorque « Elle trouve ça super que tu t'occupes de nous. » Elle est très fière. Pierre lui demande ce qu'elle voit exactement. Estelle lui décrit sa grand-mère vêtue d'un pull couleur corail et donne à nouveau ce détail curieux. Elle ne voit pas les jambes de Jeanne. Tout le bas de son corps est flou. Pierre comprend que sa fille ne plaisante pas le moins du monde. Elle décrit très nettement une scène qu'elle a vraiment l'air de voir en jetant de brefs coups d'œil en arrière, assez embarrassé par le caractère impressionnant de l'événement. Le jeune frère d'Estelle, Simon, est assis à 4 mètres de son père et de sa sœur et ne remarque rien, tout absorbé par son goûter. Elle la voyait, c'est sûr. Et puis, après une minute peut-être, elle s'est exclamée « Ça y est, elle est partie !»
Estelle explique avoir observé sa grand-mère se tourner et traverser le mur. À la suite de ces expériences qui s'enchaînent sans faiblir depuis la mort de Jeanne, les parents d'Estelle se souviennent alors avoir souvent surpris leur fille, lorsqu'elle avait près de 3 ans, en train de parler toute seule. « Tous les enfants font ça », s'était-il dit à l'époque. Et à leurs questions, elle répondait qu'elle parlait avec des enfants venus jouer avec elle. Ni Pierre ni Sophie n'y avaient prêté attention. Mais depuis ce curieux phénomène dans la cuisine, ils considèrent les choses autrement. Quand c'est votre fille que vous connaissez très bien qui vous raconte ça, vous vous dites qu'il doit y avoir quelque chose. Elle a toujours été très sensible, à fleur de peau. Comment avez-vous réagi quand votre fille vous a dit que Jeanne était repartie?
Je l'ai rassurée. J'ai tout de suite fait le lien avec la promesse de ma mère de se manifester. Tu vois, elle vient faire un petit coucou, elle l'avait promis, et elle est venue.
Je lui ai quand même précisé que moi, je n'avais rien vu.